La question que nous vous posions hier était la suivante. Israël a-t-il eu raison de rompre le cessez-le-feu à Gaza, oui ou non? Alors Lise, nos auditeurs, j'imagine, ont tranché la question.
Oui, une majorité de oui sur tous nos réseaux. 61% de oui sur Insta, c'est le moins de oui. 67% de oui sur X. Et 79% de oui sur Facebook. On va demander son avis à notre invité Olivier Rafovitch, colonel de réserve et porte-parole francophone de Tsahal. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Je vous entends très bien.
Donc, on parlait de cette fin du cessez-le-feu à Gaza qui est critiquée de manière internationale. Olivier, est-ce que Israël n'avait pas d'autre choix selon vous?
D'abord, il me semble que la question est mal posée, Lise. C'est pas Israël qui a cessé le feu. C'est le Hamas, qui, depuis la fin de la phase A, n'a pas respecté le fait, un, de libérer des otages, puisque nous étions en discussion avec eux, avec d'autres États. Il y avait eu des négociations sous la houlette des États-Unis, avec des discussions précise sur le nombre d'otages à libérer. Et depuis plus de 15 jours, le Hamas ne voulait libérer absolument aucun otage et continuait d'ailleurs à se renforcer et surtout à préparer des attaques que nous avons heureusement hier dans la nuit déjouées pour éviter encore une fois des attaques et peut-être même des massacres. Donc tout cela réuni, Israël n'a pas ici cassé le cessez-le-feu, il a simplement avancé les attaques prévues et planifiées par le Hamas, qui, lui, avait toujours l'intention, et qui a toujours d'ailleurs l'intention, de faire la guerre à Israël.
Alors, ce qui a changé depuis le début de cette guerre, Olivier, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les conditions. Il y a d'abord Donald Trump à la Maison-Blanche et plus Joe Biden. Il y a un nouveau chef d'état-major de Tsahal et un nouveau commandant du secteur sud. Il y a le Hamas qui a recruté beaucoup de nouveaux hommes, mais qui est tout de même très affaibli militairement. Il y a le front nord qui est assez calme. Il y a l'aide humanitaire qui n'entre plus dans la bande de Gaza. Et il y a l'Iran qui est affaibli. Donc, on est dans des conditions de guerre totalement différente par rapport au début de cette opération.
Vous avez dressé encore une fois un tableau qui est un tableau, je dirais, partiel, parce que l'aide humanitaire est rentrée, comme vous le savez, dans la bande de Gaza, avec des milliers de camions, dans le cadre donc d'un accord, dans le cadre d'un respect d'un accord. Mais le fait que le Hamas refuse de libérer les otages, je rappelle 59 otages sous le roman du Hamas, dont 24 personnes étant toujours vivantes, les autres malheureusement sont mortes soit durant leur captivité, soit ayant été kidnappés morts et ensuite amenés dans la bande de Gaza, avec une pression et un jeu du Hamas de ne pas vouloir libérer les otages et d'utiliser les otages comme garantie de survie politique dans la bande de Gaza. Ça, il faut le dire parce que beaucoup de pays ont compris ce qui se passait du côté israélien, mais beaucoup de pays malheureusement n'ont pas compris ce qui se passait. Je parle également de pays en Europe qui condamnent Israël comme si Israël avait un jour, comme ça, bon matin, décidé de frapper de nouveau à Gaza par simple envie. Absolument pas. Le Hamas a toujours l'intention de détruire l'État d'Israël. Laisser le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, avec des milliers d'hommes, avec de l'argent, avec du matériel, et avec surtout une idéologie mortifère et de volonté destructrice totale de l'État d'Israël, c'est pour nous inacceptable, impossible à accepter. Et le Hamas doit libérer les otages et doit également être démis de ses armes et ne plus être en aucun cas une puissance qui gère la bande de Gaza. Ça, c'est terminé. Et ce qui s'est passé en fait hier, c'est un changement radical, Liz, des règles du jeu entre Israël et le Hamas. Ce n'est pas un nouveau round de conflit entre Israël et Hamas. C'est un changement radical des règles du jeu, qui était jusqu'à maintenant fixé par le Hamas, qui pensait comme ça réfléchir, oui, je rends les otages, non, je rends pas, combien j'en rends, j'en rends des morts, j'en rends peut-être un vivant avec telle ou telle nationalité, et puis je demande de l'aide humanitaire, et puis je vais la revendre à des prix exorbitants pour avoir de l'argent. Tout cela, it's over. C'est terminé. Israël n'accepte plus, et on a eu la patience, ces règles qui ont été fixées par le Hamas, avec, de manière un peu paradoxale, une espèce de soutien de pas mal de pays qui ont en fait dit peut-être il faut laisser le Hamas parce que il est là, il doit être là. Non, c'est terminé. Et les pays qui sont avec nous aujourd'hui, et je parle entre autres des USA, comprennent qu'il est hors de question pour Israël, mais également pour les pays de la région, d'avoir un Hamas qui gère, qui s'occupe de la bande de Gaza au sud d'Israël. Ça, c'est une chose qui ne peut plus être. Et soit le Hamas dépose les armes et libère les otages, et on passe à une autre phase, soit Israël va devoir, comme vous l'avez vu depuis hier, frapper les objectifs du Hamas, du djihad islamique, les éliminer et faire tout pour libérer les otages. Maintenant, juste un point, si vous me permettez. Pourquoi des pays démocratiques qui ont des problèmes face au terrorisme islamiste de la pire espèce condamnent Israël lorsqu'Israël élimine hier des centaines de membres du Hamas et du djihad islamique? Pourquoi? Quelle est l'idée derrière cela? Pourquoi ne pas comprendre qu'Israël fait ici le jeu, et pas le jeu, en tout cas fait ici le travail, pardon, que toutes les démocraties doivent faire face à cette menace, qui est une menace existentielle pour les démocraties et pour les pays musulmans qui ne veulent pas être contaminés par ce terrorisme islamiste de la pire espèce.
Alors, il n'y a pas tout de même que les pays musulmans, et c'est vrai que beaucoup saluent cette opération militaire et antiterroriste qui a été très précise en plus et qui a permis l'élimination de centaines de terroristes et de hauts responsables du Hamas d'un seul coup. Il y a évidemment la situation des otages qui inquiète tout le monde, Olivier Rafovitch, et notamment les familles d'otages qui ont peur de manière légitime que cette reprise des opérations militaires à Gaza ne condamne les otages, puisqu'on sait que le Hamas a déjà tué 6 otages cet été dès que les troupes israéliennes se sont approchées de l'endroit où ils étaient.
Donc, ça veut dire en fait que parce que le Hamas continue à menacer les otages, ce qu'il fait depuis le 7 octobre 2023, je rappelle qu'il a tué, qu'il a assassiné, violé, qu'il a brûlé, qu'il a tué des enfants, des bébés de sang-froid, à main nue, je parle des petits-enfants Bibas, Kfir et Ariel, que nous avons tous dans nos cerveaux pour l'éternité, leur maman, Shiri, Zichronam Livracha, ces 3 personnes innocentes, magnifiques, qui ont été assassinées par des assassins de la pire espèce, eux, aujourd'hui, disent que si vous faites ça et ça, alors on va faire ça. Ils n'ont pas attendu à l'époque pour assassiner et pour tuer. Et aujourd'hui, je pense, il nous semble, qu'ils doivent être extrêmement prudents pour ne pas toucher à un seul cheveu des otages. Parce que Israël, aujourd'hui, je répète, change radicalement d'approche. Et nous voulons aujourd'hui la libération des otages. Nous l'avons dit, nous le répétons, nous le répéterons, tant que tous les otages ne seront pas rentrés à la maison, n'est-ce pas, les vivants et ceux qui doivent avoir une culture digne de ce nom en Israël, eh bien Israël continuera à faire ce qu'il doit faire. Et le Hamas, hier, a reçu un message très clair. D'ailleurs, les pays aux alentours, je parle de l'Égypte entre autres, ont compris également ce message qui a également été transmis et, je dirais, renforcé de la part de l'Égypte au Hamas. Le Hamas, aujourd'hui, doit comprendre qu'il ne peut pas continuer à jouer avec la vie des otages, à faire cette pression de terrorisme psychologique de la pire espèce, de la population qui attend. Et vous parlez des familles des otages qui sont inquiètes. Tout Israël attend le retour des otages. Et c'est pour nous en Israël et pour nous au sein de Tsahal, je parle en tant que porte-parole francophone de Tsahal, une priorité absolue. Les otages reviennent à la maison. Et rappelez-vous, Lise, excusez-moi, rappelez-vous les simulacres de cérémonies de la pire espèce. Rappelez-vous cette tête de vampire lorsqu'ils ont rendu les corps des enfants Libas dans des cercueils accompagnés par des assassins qui eux-mêmes sont les assassins de ces hommes et de ces femmes qui ont été assassinés par le Hamas. Tout cela pour faire quoi? Pour faire cette pression, pour faire croire qu'ils ne vont pas les rendre. S'ils les rendent, ils vont continuer à attaquer, à humilier Israël. Je répète, les règles du jeu hier sont changées pour l'intérêt des otages et pour l'intérêt d'Israël.
Un message clair. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, colonel de réserve et porte-parole francophone de Tsahal, d'avoir été avec nous pour cette question du jour. Bonne journée à vous, à très vite.
Amen.